Mais qu'est-ce que c'est, ce qui se passe ces jours en Espagne? Depuis le 15 mai, des milliers de gens campent sur des places des grandes villes. Ils protestent. Contre quoi? Contre le plan de rigueur qui les prive du peu qu'ils avaient encore, contre un système qui fait qu'ils sont gouvernés alternativement par le Parti Socialiste ou le Parti Conservateur, la même merde sous deux noms différents. Ils ont un discours très modéré, ils demandent des réformes du code électoral, mais ils appliquent l'autogestion au jour le jour, à des échelles où on voit ça rarement. En fait, il s'agirait un peu d'un camp no border, mais où les militants sont pas du tout des militants, plutôt des gens normaux, et puis qui se tiendraient simultanément dans toutes les villes d'Espagne, les grandes, les moyennes et même les toutes petites. Comme Radio Canu n'avait pas les crédits pour me payer un voyage à travers la péninsule, j'ai joint des gens au téléphone pour me faire raconter tout ça. Trois personnes, trois cultures politiques différentes, trois implications différentes, trois villes différentes aussi, mais un même enthousiasme. L'une au moins de ces personnes m'a bien demandé de préciser qu'elle ne parlait qu'en son nom personnel. Elle avait des scrupules parce que le mouvement a ses porte-parole, qu'elle ne voulait pas prendre leur place. Moi, j'étais plus intéressé par la conversation avec des participants et des participantes anonymes, par leurs expériences anonymes, que par la parole officiellement portée. Allez, on écoute ce qu'ils et elles ont à dire.
J'habite à Santa Eulalia de Ronçana.
Qui est proche de Barcelone?
Si, c'est un tout petit village proche de Barcelone, à 40-45 km. Et pas loin d'une petite ville qui s'appelle Granollers, qui est plus connue. Mais je me suis promenée par Granollers et j'étais bien surprise parce que c'est un village, je ne sais pas exactement la population, mais la place majeure du village, le centre, était complètement plein de gens qui habitaient là pendant ces jours. Et bueno, c'était une grosse surprise de sentir que, bueno, même dans les petits villages, il y a... On est tellement branché à ce qui arrive.
Les gens qui étaient là, c'était qui?
Bueno, les gens qui étaient là, celui qui dormait, tout ça, c'était surtout les jeunes. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui on ne dirait pas, qui sont dans les manifestations et tout ça. Et c'est de couples, je ne sais pas, de 50, 60 années, et qui étaient bien tranquilles, bien, bueno, bien intégrés dans les gens qui étaient par terre et avec les tentes de campagne, je ne sais pas comment ça s'appelle, et tout ça. Et bueno, ils se tenaient tranquilles et ils s'organisaient très bien. Et toute la place était pleine d'affiches avec toutes les histoires écrites qu'ils avaient décidées. Et il y avait la commission qui était tout le temps en écrivant les résultats des réunions et bueno, les actes, bueno, les successives actuations qu'ils vont faire et qu'ils invitent toute la population qui se promène, que d'autre côté, elles sont très disposées à le faire. Et les gens qui passent par la place et tout ça, et tout le monde reste là et fait avec, et on fait les cacerolades, je ne sais pas comment se dire, comment vous disiez, mais piquer dans les casseroles à certains horaires pour se faire écouter.
Salut Courgette, toi t'es en Espagne là, tu es dans la ville de Barcelone.
Ouais.
Et du coup à Barcelone où il y a un campement comme dans plein d'autres villes espagnoles, toi tu y traînes depuis le début sur ce campement?
Je suis pas venu dès le début, parce que il y avait une manif en fait qui était convoquée pour dimanche dernier, et puis on était plusieurs à être assez sceptiques quoi, sur le contenu de l'appel quoi. Et puis finalement au bout de quelques jours, quand on a vu que ça prenait, que ça durait, et bien on a rejoint le campement. À peu près mardi, mercredi dernier.
Alors, sceptique pourquoi et qu'est-ce qui vous a décidé à le rejoindre?
Bah, on était sceptique d'une part parce que la base c'est quand même assez proche de position un peu citoyenne, un peu de démocratie participative, etc. En tout cas, ça n'avait pas l'air très enthousiasmant. Mais au fur et à mesure, en fait, que le camp s'est développé, on a pu se rendre compte que ça prenait complètement un autre sens du fait que des milliers de personnes se rapprochaient un espace public, l'occupaient et ils développaient leurs propres activités là-bas. Et c'est un peu l'effet de nœud du truc qui se passe depuis une semaine, c'est que là, il y a une espèce de centre social autogéré sur la plus grande place de la ville, en tout cas moi, j'ai jamais vu quelque chose de cette envergure-là, quoi. Pour donner un exemple, hier, on était plus de 3000 à la réunion générale, hier soir, encore à minuit, et il y avait encore peut-être 400 personnes qui dormaient sur la place hier après 8 jours d'occupation. Il y a 40 commissions de structurées dans le campement, des milliers de personnes impliquées dans l'organisation des activités, dans la prise de décision, dans les prises de décision collectives. Et c'est une espèce d'aventure de démocratie directe qui est vraiment d'une ampleur incroyable, quoi.
Annie, toi, t'es à Madrid, t'es déjà allée sur le campement depuis qu'il existe ?
Oui, en fait, je suis passé plus ou moins tous les jours depuis le dimanche du 15 mai.
Tu as passé des nuits aussi ?
Non, j'ai pas passé de nuit. Mais je suis passé tous les jours une heure ou deux sur place pour voir un peu ce qui se passait, essayer de voir un peu l'évolution, de voir ce qui s'organisait et d'être un peu au courant, quoi.
Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'y passer ?
Je pense que... Telle que la situation en Europe actuellement, je trouve que c'est des mouvements qu'il faut quand même assez appuyer, parce que je pense que c'est des bonnes opportunités pour vraiment changer les choses. Pour une fois, c'est pas 5 personnes sur une place qui revendiquent on ne sait pas très bien quoi, c'est tout le monde se met d'accord sur certaines revendications en même temps, et peu importe la différence, il y a vraiment une union générale et un soutien pour essayer de faire changer les choses tous ensemble, en fait.
Il y a un tel dégoût pour les hommes politiques que personne n'a envie de reproduire ça, en fait, quoi. Et qu'il y a vraiment une espèce d'attention collective à ça, au rôle de pouvoir. Je suis assez étonné, en fait, du fait que c'est pas un campement anarchiste ou quoi. Et ce, malgré le fait qu'on prenne des décisions à 400 et 6000 personnes parfois, quoi. Et il y a plein de critiques à faire, notamment, les décisions se prennent en consensus. À 5000 personnes, on peut imaginer la police à présent. Et à plein de moments, c'est un peu incohérent, et un peu bizarre, pas forcément, c'est pas toujours intéressant, mais à plein de moments, on est vraiment surpris du sens critique, quoi, qui est partagé par les gens. En fait, il y a plein de cerveaux qui marchent ensemble et qui tirent dans le même sens.
Non sigáis. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él.
Mira, Chanquete, ¿sabes lo que te digo? Que eres un tipo muy orgulloso y muy egoísta, y que por tu culpa, nosotros y el pueblo entero vamos a perder la mejor ocasión de nuestra vida, si te emperras en esto.
Y esto no estamos dispuestos a tolerarlo, viejo loco. Te obligaremos a marcharte, si no es con la ley, a pedradas.
¿Quién nos contesta?
¿Qué contesto, animales de bellota?
Quieto, Chanquete. Esto les contestamos. ¿Os acordáis, chicos?
Sí. Sí.
No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán. Porque en el barco tiene el sonido. No nos moverán. Del barco de Chanquete. No nos moverán. Del barco de Chanquete no nos moverán, porque este barco es toda su vida. No nos moverán. No, no, no nos moverán. No, no, no nos moverán, porque en el barco tiene el sumido.
Pretensiones
no nos moverán,
todos sus millones
no nos moverán,
porque este barco es toda mi vida.
No nos moverán.
Et alors, est-ce que tu serais capable de nous faire une sorte de synthèse des revendications qui sortent de ça?
La synthèse que je peux te faire, c'est les idées que j'ai le plus entendues. Mais je te dis, comme je suis pas impliqué dans... Je vais pas aux assemblées générales, etc. Je peux pas... Ça va peut-être pas être très représentatif, mais bon, je peux te dire quelques idées comme ça. C'est... Ils veulent absolument donc obtenir ce qui est donc la réforme de la loi électorale. Parce que... lors des élections, en fait, les partis minoritaires n'ont pas beaucoup de chances d'être représentés démocratiquement, on va dire. Et bon, en fait, en résumé, c'est que c'est un système majoritaire et proportionnel à la fois. Et c'est pas facile quand t'as un petit parti d'obtenir vraiment des voix au niveau général, malgré que tu sois élu au niveau local, enfin bref. Donc ça, c'est une des revendications. Et puis, il y a d'autres choses qui sont en train de se faire aussi. C'est ils veulent vraiment faire un travail dans les différents quartiers de Madrid et dans les villages d'à côté, en fait. Donc ils veulent vraiment faire un travail de terrain, d'information. Par exemple, ils veulent essayer d'établir un système différent de démocratie, en fait, parce que je ne sais pas si tu sais, le mouvement il s'appelle Démocratie Realia. Maintenant, donc en espagnol, c'est Democracia Realia. Ça, ça veut dire augmenter la participation, en fait, des gens dans le système démocratique et essayer de fomenter un peu l'organisation locale et la façon de prendre des décisions, etc. Il y a des commissions qui travaillent sur l'éducation, par exemple, sur la privatisation de la santé, sur... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Sur l'emploi, enfin, ça part dans tous les sens, vraiment, quoi.
Donc tu vois, ça se passe un peu dans une histoire, dans un parcours qui peut être militant, mais vu que la plupart des gens, en fait, n'ont pas d'idéologie.
C'est qui, en fait? C'est quel genre de personnes qui sont réunies sur ces places?
Mais en fait, il y a un peu de tout, hein. Donc, il y a d'une part tous les gens qui, en général... Enfin, je dis tous les gens, c'est aussi très général, mais donc il y a en général beaucoup de personnes qui sont déjà impliquées dans leur vie quotidienne, dans des associations militantes, donc tout ce qui est revendication de différents droits dans différentes associations. Mais alors en plus de ça, il y a toute une série de gens, je dirais plus ou moins comme moi, tu vois, qui s'intéressent à ça et qui ont déjà été dans 2-3 trucs de temps en temps, mais qui cette fois-ci essaye de découvrir un peu plus ce qui se passe et de s'intéresser et de comprendre et de participer, en fait. On voit que le mouvement rejoint de plus en plus beaucoup de personnes qui viennent d'horizons différents, en fait.
Comme tu le dis, ça veut dire qu'il y a des organisations, des partis politiques qui sont parties prenantes de ce truc-là, ou est-ce qu'il y a des militants qui sont parties prenantes, mais sans...
Non, il y a énormément d'associations qui travaillent ensemble, de groupes. En fait, depuis qu'il y a ce mouvement qui s'est créé, Ça a vraiment cru, mais d'une façon exponentielle. Et ça s'est vraiment organisé de plus en plus. Et ils ont créé des tas de commissions, des tas de petites commissions et de petits de groupes de discussion, en fait, sur des tas de choses, sur des tas de sujets différents. Et après, à partir de là, ils font des assemblées générales où tout doit être présenté, accordé, et puis présenté via la commission de communication à la presse, par exemple. Et donc aussi... Les gens qui participent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent appuyer, qui viennent s'intéresser et de poser des questions en général. Et puis beaucoup de gens qui veulent vraiment faire changer les choses aussi et qui sont vraiment d'horizons différents. Il y a des gens de tous les âges. Je pense qu'il y a un mot d'ordre dans ce mouvement, c'est qu'ils refusent que, je sais pas comment on dit ça en espagnol, mais en français, mais que ce soit abanderado, c'est-à-dire que ça représente un parti politique ou une association... concrète, où ils veulent pas un drapeau, quoi, hein, ce genre de question, que ça représente une identité. Ce qui est très important, c'est que ce soit un mouvement où on est tous ensemble, et malgré nos différences, on a des points en commun et on va travailler là-dessus, quoi.
Non, 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 nos moverá.
Que toi, tu pourrais nous résumer un peu ce que demandent tous ces gens qui campent à Granollers ou ailleurs?
Mira, ils demandent une explication à cette situation tellement cruelle d'être de familles qui ont perdu tout, et qui ont perdu sa maison, qui ont perdu ses travaux et qui ne peuvent pas alimenter sa famille et ses enfants s'ils n'ont rien fait et ils ont fait tout ce qu'il faut, non? Ils ont collaboré tout le temps, si est-ce qu'il fallait. Il y a des autres cas, mais ça, c'est les cas moyens des gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Et il y a tellement de cruauté et souffrance et pas d'écoute de la partie des gouvernements.
Est-ce que ça veut dire que les gens qui sont sur ces campements sont principalement des gens pauvres?
Bon, non, ils sont des gens pauvres dans ces moments, mais peut-être il y a... pas longtemps, ils étaient des gens qui faisaient la vie normale. Et je pense que les pauvres, je n'ai pas l'impression que ce soit ça, et que ce soit les immigrants, que ce soit tous les groupes marginaux et tout ça. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt les gens qui d'un jour à l'autre, ils ont tout perdu à cause de cette inflation terrible. Bueno, je pense que ça se voit par le type de manifestation qu'on voit, que c'est pas habituel, parce que les groupes politiques, les syndicats, tout ça, font un autre type d'actuation plus énergique et tout ça, mais ce sont des gens qui se tiennent tranquilles, qui s'organisent magnifiquement. Tu peux pas imaginer comme il y a, par exemple, non, des petites poubelles dans la place de centre de Granollers. Je suis passée et j'avais une chose à la main et je les jetais, elles étaient vides. Et pourtant, ils habitaient là, ils avaient ses propres poubelles bien séparées, bueno, les plastiques, les vitres, tout, bueno, tout comme ça, ils se sont organisés et tout est impeccablement nettoyé. C'est un exemple de que ils ont une attitude très spéciale, non, ils ne veulent pas ni détruire rien, ni seulement ils cherchent une façon de trouver un schéma et tous ensemble, même parce que je suis sûre que ce ne sont pas des groupes organisés, ils ne se connaissaient pas avant.
Est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui ont une culture et une pratique politique, par exemple, ou pas plus que ça?
Effectivement, il y a vraiment une culture politique, mais qui n'est pas une culture militante. Ou pas seulement, en tout cas, il y a une minorité ou une partie active des gens qui peuvent être militants, qui depuis des années pratiquent, notamment par exemple les réunions. C'est sûr que les militants ont des outils, des connaissances qui permettent un peu de dynamiser les réunions, ce genre de choses. Mais d'un point de vue de la culture politique, ce qui est plus fort, c'est plus, par exemple, la tradition, l'héritage des apatistes, par exemple, est assez intéressant. Il y a plein de choses ici qui se disent, qui font vraiment penser à ce qui peut se dire au Chiapas. Les révoltes des pays arabes aussi, les révoltes des pays méditerranéens du sud de ces derniers mois ont influencé également énormément ce qui se passe ici. L'Islande, c'est un espèce de mélange comme ça de contexte international, mais aussi de contexte local. Par exemple, il y a 6 mois, il y a une grève générale ici. Et là, ces derniers temps, dans les réunions, c'est quelque chose qui se dit pas mal, c'est qu'on est peut-être dans une situation où on pourrait essayer de programmer, de convoquer nous-mêmes une grève générale dans les prochains mois. Depuis un mouvement de base, quoi, et qu'on n'attende pas les chefs des chefs syndicaux.
D'après ce que tu dis, il y a une sorte de mélange entre une pratique autogestionnaire et une sorte d'instinct autogestionnaire, je dirais, et à côté de ça, des revendications qui ne sont pas du tout autogestionnaires, qui sont des revendications pour un mode différent d'élection, mais qui restent de démocratie représentative.
Oui, oui, parce que évidemment, dans ce mouvement, il y a beaucoup de gens qui pensent différemment, tu vois. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a des gens qui sont depuis toujours donc, dans des organisations autogérées. Et donc là, c'est très clair pour eux que pour beaucoup de personnes, ils veulent pas rentrer dans le système, ils veulent profiter de l'occasion pour créer quelque chose de différent, en fait. Et puis, à part ça, tu as d'autres gens qui disent non, sans doute maintenant, ce qui est mieux, en fait, c'est de, pour être un peu plus pragmatique, ce serait de changer directement le système électoral et d'obtenir ça. Voilà. Donc il y a un peu tous les... Il y a d'une part donc des revendications générales, c'est-à-dire... vouloir changer par exemple la loi électorale et vouloir changer ce qui existe, mais à part ça, il y a toute une démarche d'essayer d'établir un mode de fonctionnement qui soit différent en fait.
Et alors tous ces gens arrivent à parler ensemble et à être assez d'accord en tout cas pour demander quelque chose
c'est
ensemble.
C'est pas facile, mais ils essayent, oui.
Il y a d'une part, il y a un peu de postures qui s'opposent et qui ne s'opposent pas non plus. Il y a des gens qui sont en train d'essayer de définir une espèce de programme de mesures d'urgence qui pourrait être réaliste, qui serait comme une espèce de revendication à court terme, une espèce de revendication minimale, quoi. Mais en même temps, en parallèle à ça, et parfois de forme complémentaire, il y a toute une partie des gens qui disent pas « on veut ça ». Mais qui donnent, moi j'ai rarement vécu un truc comme ça où l'opposition réformiste révolutionnaire n'est pas si évidente.
Comment est-ce que ça s'organise pratiquement, je veux dire, au point de vue matériel, sur la place?
Ah, ça c'est hallucinant. C'est incroyable. Je veux dire, il y a une commission donc qui s'appelle commission alimentaire, par exemple, qui se charge de faire à manger pour tout le monde, en fait. Ou, je sais pas exactement comment ça fonctionne, je sais pas s'ils font à manger eux ou s'ils récoltent de la nourriture. Mais je veux dire, les gens qui sont sur place... les gens qui restent dormir ont un déjeuner et un souper le soir, par exemple. Ça, je veux dire, c'est vraiment dingue quand ils pensent.
Ouais, parce que ça fait énormément de gens.
Ça fait énormément de gens, et puis c'est gratuit. Enfin, je veux dire, je sais pas, je pense que tout ce qu'ils font, c'est gratuit. Enfin, toute la nourriture qu'ils reçoivent, ils la reçoivent gratuitement, donc il y a quelque chose qui est né. Là, il y a une solidarité qui est née quelque part. Et je pense que ça, c'est vraiment très. C'est impressionnant, quoi. Donc t'as ça d'une part. Et moi, par exemple, ce que j'ai vu hier quand j'étais, c'est que il y a aussi une tente communication. Et c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment de plus en plus organisé. Je pense qu'ils sont assez débordés, mais il y a maintenant une tente pour prendre en charge la presse, quoi. Tu vois, pour répondre aux questions, aux ordinateurs sur place. Enfin bref, ils sont en train de passer, par exemple, toutes les actes des assemblées. Qui se font, ils sont en train de toutes les passer à l'ordinateur et d'essayer de les mettre en ligne sur le site, après approbation bien sûr de l'Assemblée Générale, etc.
Par rapport aux discussions, c'est-à-dire que depuis le début du campement, chaque jour il y a des dizaines et des dizaines de groupes qui se forment de manière complètement spontanée. Les gens qui arrivent à place, ils commencent à hurler leur colère face à la situation. Et petit à petit, comme ça se ferait un groupe, et donc il y a des espèces de débats, c'est une sorte d'agora géante, en fait, quoi.
Est-ce que tu sais combien il y a de villes dans lesquelles il se passe des choses comme ça?
Je pense que c'est partout, parce que les grandes villes, ce sont ceux qui sont plus dans les moyens de communication sociale, mais je crois que dans toutes les populations, un peu, je ne sais pas, de 10 000 habitants, c'est sûr qu'ils sont, j'ai des amis à Sabadell, Terrassa, ils sont des populations pas loin de Barcelone, mais des petits villages, et sont aussi dans les mêmes cas, et je pense que c'est un peu partout, parce que c'est partout qu'il y a des gens qui souffrent, c'est des économique et sociale il y a longtemps, et il arrive un moment où les gens sont vraiment désespérés et ne comprennent pas pourquoi ça arrive, même si une fois ils vont botter un groupe, après ils vont botter l'autre, mais après ça se voit que n'a pas aucun chemin.
Tout à l'heure tu parlais du fait qu'il y avait une quarantaine de commissions différentes qui géraient la place un peu. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que c'est, ces 40 commissions?
Par exemple, une commission communication, une commission extension, économie, action, il y a un hôpital autogéré, il y a une école autogérée, il y a une garderie, il y a une cuisine gigantesque, il y a une bibliothèque, un atelier de vélo, un studio télé, des studios de radio. Il y a une équipe de traducteurs composée de 150 personnes qui traduisent dans 33 langues différentes les textes qui sont produits par l'Assemblée.
Parce que c'est là que j'étais quand même le plus actif, on va dire. Ils ont fait donc il y a une section féminisme, il y a une commission féminisme qui s'est créée pour essayer justement d'intégrer les revendications féministes en général dans les revendications générales, en fait. Parce que on ne conçoit pas un changement de société sans un changement de certaines choses basiques comme le traitement envers les femmes et des tas de choses, le salaire, l'égalité sur le marché du travail, etc. Parce que c'est une des commissions qui a été créée et ils essaient d'intégrer ça dans la lutte générale. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte que c'est vraiment important que ça fasse partie, en fait. Parce que si on change la société, on ne va pas changer tout sauf ça, quoi. Tu vois, je veux dire, ça va presque commencer par là. Si on veut vraiment être révolutionnaire, je pense qu'il faut vraiment changer les relations interindividuelles, etc. Et je pense que c'est le début, quoi, hein, vraiment de plein de choses. Enfin, voilà.
Et alors ça m'amène à une question, c'est que j'imagine que, avec ce que j'ai compris de diversité des gens qui sont arrivés sur ces campements, j'imagine qu'il y en a un certain nombre qui ne se doutaient pas qu'ils allaient tomber dans un truc où ils allaient aussi devoir intégrer des revendications féministes. Est-ce que tu penses que ces campements font aussi évoluer les gens qui y participent, leur ouvrent un peu de nouveaux horizons politiques?
Mais je pense que c'est en effet... l'opportunité pour tout le monde d'être confronté à des choses auxquelles on n'est pas habitué du tout, tu vois, des façons de penser et de voir les choses, parce que moi aussi, par exemple, tu vois, évidemment, il y a des choses auxquelles j'avais spécialement jamais pensé, et je me rends compte qu'en effet, oui, pour une société réellement changée, c'est des choses qui doivent changer aussi, quoi. Et je pense que le féminisme, ça a été très mal reçu au départ, par pas par les gens qui participent activement dans le milieu associatif, mais je dirais plutôt par les gens qui viennent sur la place, par exemple, à 10h du soir pour faire acte de présence, et qui sont pas du tout habitués à ce genre de propos. Je pense qu'ils ont été très choqués et qu'ils comprennent pas du tout ce qu'est le féminisme. D'ailleurs, nous, on a été assez impactés par ça, parce qu'on avait, décidé donc de mettre une banderole, si tu veux, sur un des bâtiments clés de la Poste del Sol. Et en fait, après 5-10 minutes, la banderole est tombée. Il y a une partie de la banderole qui s'est un peu détachée. Et puis, il y a un type, en fait, qui l'a arraché, qui l'a prise en main, qui l'a secouée, et tout le monde a applaudi. Enfin, je veux dire, une banderole qui disait « La révolution sera féministe ». Les gens sont sentis tout directement très très attaqués, tu vois, par ce propos, en fait, avant même d'essayer de réfléchir. Donc, mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas... c'est par ce genre de truc que tu te rends vraiment compte qu'il faut vraiment faire un travail d'éducation de la société par rapport à ce sujet-là en général, quoi. Parce que tu vois que il y a des choses qui sont pas du tout acquises, on oppose le féminisme au machisme, on comprend pas pourquoi la société a besoin d'être plus égalitaire et pourquoi le féminisme est nécessaire. On pense que c'est le truc des années 50. Les gens sont pas du tout... sont pas du tout conscients du changement que ça pourrait représenter, en fait. Le féminisme en Espagne, je sais pas comment c'est en France, a encore et toujours l'image d'il y a 25 ans au moins, quoi. Disons que nous, on fait un travail, on a un stand là, donc, enfin un stand entre guillemets, on a une tente, il y a une zone féministe, les gens passent et posent des questions, et il y a des gens qui font des permanences entre guillemets, et qui sont là pour répondre aux questions de tout le monde. Et ce qu'on remarque, c'est que tous les gens qui arrivent, ils arrivent vraiment à la défensive en essayant de montrer que le féminisme ne sert à rien. Tu vois, plutôt que de venir demander et de s'informer pour essayer de voir, c'est intéressant, et qu'est-ce que vous pensez, et pourquoi vous pensez que ça sert, non. Ils viennent directement dire que ça ne sert à rien, que c'est n'importe quoi, qu'il y a déjà une égalité entre hommes et femmes, que ce travail n'a rien à voir à l'heure actuelle. Et donc, tu dois vraiment commencer par les bases, et je dois dire, le comportement en général des gens qui arrivent, c'est assez agressif. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui sont passés par là, qui en effet ont changé leur point de vue, mais beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, je pense en général, plus âgés, ou je veux dire, c'est très difficile de leur faire comprendre les choses. Hein. Je pense que c'est très bien qu'on soit là, tu vois, qu'on soit là, qu'on ait une représentation dans le milieu associatif, donc en général, on est quand même plus ou moins respecté. Bon, parfois, il y a des discussions qui sont pas faciles, mais je veux dire, on est pris en compte dans pas mal de décisions. Et voilà, mais il y a une incompréhension, parce que je pense que c'est un sujet qui n'intéresse pas la majorité des gens en général. Et les gens surtout ne voient pas l'impact que ça peut avoir sur la société en général et ne voient pas le problème en fait. Ce qu'on a décidé en fait, donc après cet épisode de la banderole, c'est en fait, on s'est rendu compte que, bon, ben, on n'avait pas pensé à ça, mais c'était évident, tu vois, que les gens ne sont pas informés suffisamment. Et on s'est rendu compte que sans doute on était trop, en général, entre nous. Et qu'on ne faisait pas assez de communication via l'extérieur. Et on a vraiment décidé que maintenant, enfin, vraiment ce qui est né après cet épisode, c'est un désir d'informer vraiment concrètement les gens, parce qu'on s'est rendu compte que la clé pour le changement, elle est là. Et il faut informer, il faut parler aux gens, même s'ils sont agressifs au départ, il faut essayer de leur faire comprendre. Il faut vraiment investir à ce niveau-là de l'énergie pour que petit à petit la société change, parce que si on reste entre nous, rien ne va changer jamais. Hein.
Tous les soirs, en fait, il y a une assemblée générale où chaque commission vient présenter le travail qu'elle a fait dans la journée. Et en fonction de si on estime que ça vaut la peine d'en parler entre tous ou pas, c'est informatif ou c'est décisionnel. Quoi. On vote, littéralement. Et à partir du moment où, par exemple, 40 personnes ne sont pas d'accord avec une décision dans les réunions, tu peux rassembler 100 000 personnes. Hein. À partir du moment où 40 personnes, ça dépend des soirs c'est 40, des soirs c'est 20, mettent en débat la prise de décision, et bien, on ouvre un tour de parole, on débat. Jusqu'à arriver à un consensus, si on n'arrive pas à un consensus, la proposition retourne aux commissions et les commissions reviennent le lendemain avec une proposition un peu plus affinée, quoi.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, vont bosser la journée et viennent sur le campement le soir? Est-ce que dans cela, il y en a qui dorment? Comment ça se passe pour les gens qui bossent, en fait? Et quelle est leur participation?
Il y a un dessin satirique qui est sorti cette semaine qui est assez marrant. aussi dans El País, le journal national, qui, où tu vois un homme politique qui, face à ses mobilisations, répond mais qui tripons, ils commencent à se mettre à révolter, ben on s'ils font ça, on va leur quitter leur travail. Et les gens répondent, mais non, on a déjà plus de travail. Ah mais alors si vous continuez, on va vous quitter vos aides sociales. Hein, on a déjà plus d'aides sociales. Et si vous continuez, on va vous quitter votre maison. On n'a déjà plus de maison. Et c'est vraiment une réalité, parce que sur la place, des 500 personnes qui dorment, il y en a peut-être 100 qui sont des personnes qui ont pas de, qui sont SDF. Et des gens qui sont sur la place, bah, effectivement, il y a énormément de chômeurs, mais il y a plus de 25% de chômeurs dans ce pays.
Un détail dont je me souviens là vaguement maintenant pour l'instant, ils ont décidé de faire par exemple, par rapport à ce que je te racontais sur le féminisme, une des actions qui a été faite, c'est de faire une formation dans l'attente de journalisme et communication pour sensibiliser sur la façon dont on parle des femmes en général et les génériques, etc. Donc,
et là, par exemple, aujourd'hui, il y a deux groupes qui sont partis aller voir des usines dans lesquelles il doit y avoir des plans de licenciement massifs dans les prochains mois, et pour essayer de les rencontrer et de les inviter à venir participer avec nos campements.
Dans chaque commission, tous les jours ou tous les deux jours, il y a des assemblées générales, il y a des assemblées au sein de chaque commission pour voir ce qu'on fait par rapport à différents thèmes. Et puis après, ces décisions sont présentées à l'Assemblée générale et sont approuvées ou discutées et après passées par écrit, après être passées par communication, passées par écrit et puis après ça passera normalement dans les médias. C'est un peu compliqué parce que ça prend beaucoup de temps finalement. Il y a beaucoup de gens. Ça prend beaucoup de temps, mais je pense que les choses sont vraiment en train de bouger. Et beaucoup de gens, je pense que par exemple aussi un truc qui est très, très positif pour les gens qui ne sont pas habitués au milieu associatif en général, c'est de voir finalement comment sont prises les décisions. Parce que par exemple, quand il y a une assemblée générale, ça occupe presque un peu plus même de la moitié de la place de la Puerta del Sol. Donc, je veux dire, tu as 4-5 personnes qui sont en train de parler, il y a chacun, les gens qui veulent intervenir interviennent. Je veux dire, ça prend énormément de temps et les gens et beaucoup d'espace sur la place et les gens qui passent voient vraiment comment ça se passe, voient comment ça se discute. Et ça, je pense, par exemple, à niveau information, pour les gens qui ne sont pas habitués au milieu associatif, c'est vraiment très, très intéressant, par exemple, d'être confronté à ça et de voir que c'est pas spécialement des gens anarchistes qui n'en ont rien à faire, de rien du tout, etc. C'est justement beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées, qui réfléchissent sur des tas de choses et qui essayent de se mettre d'accord d'une façon plus ou moins démocratique sur vraiment des tas de thèmes. Et tu vois que ça prend beaucoup de temps, que c'est vraiment pas facile, mais qu'il y a des choses qui se débloquent à la fin. Il y a vraiment des choses qui sont décidées et qui avancent.
Tu viens de parler rapidement des organisations, des partis politiques, des syndicats. Et quel est le rapport qu'ils ont avec le mouvement actuel ?
Bueno, la télévision peut-être dit quelque chose, il y a des groupes qui donnent du support, et il y a eu dans les moments où il y avait le temps des élections où elle était un peu conflictif pour eux d'avoir les gens là et les jours de réflexion et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu les partis politiques qui sont mis d'accord ou en contre, bueno, qui ont dit son avis, mais là que j'ai vu sur la rue, c'est que le politique n'a rien à voir. Ils ne sont pas là.
Tu veux dire, il n'y a aucun militant de parti politique, même par exemple d'extrême gauche ou
Non. Même s'ils sont là, peut-être ils sont là, parce que, bon, il est très possible, parce que ce sont des idées très, très proches, non? Mais ils n'ont pas aucun, comment ça s'appelle, bandera, pancarte, ou c'est non, son nom et tout ça, il n'y a rien, tu vois rien. Peut-être il y a des gens qui sûrement ont voté ça ou voté là, mais devant le, ils n'ont fait aucune pression les jours des élections. Les jours des élections, j'étais là à 12h du matin, et où tout le monde va voter et tout ça, et il n'y avait aucun opinion, aucun, ils ne disaient rien sur ça. Parce que c'est justement ce qui est vraiment magnifique, c'est qui sont au dehors des histoires de politique, c'est du côté de la jeune du peuple qui demande qu'est-ce que c'est ça, comment on peut continuer à vivre dans ces relations si difficiles entre les gens et les politiques. Je pense que ça fait voir un peu que les gens sont vraiment fatigués de voir que ni les uns ni les autres sont capables de résoudre ou d'offrir des chemins.
Est-ce que tu penses que ça va continuer?
Bon, pour le moment, ils ont proposé encore, et, si, quelques jours encore ou quelques semaines. Et, bueno, ils attendent un compromis par des partis de politiciens qui puissent se compromettre à avoir, bueno, soit qu'elle soit son idéal politique, qu'ils comprennent qu'il y a une situation réelle qu'il faut affronter.
Tous les médias français, dans la toute petite mesure où ils ont bien voulu parler de ça, ils avaient mis un énorme enjeu sur dimanche dernier, parce que c'était le jour des élections, et en montrant vraiment le mouvement comme un mouvement qui voulait jouer sur les élections. Et du coup, ils sous-entendaient un peu qu'à partir de dimanche soir, il n'y aurait plus personne. De fait, c'est pas le cas. Et par contre, aujourd'hui, j'ai aussi entendu que le bruit courait un peu fort, que les gens risquaient de se faire dégager par les flics aujourd'hui.
Oui, en fait, ça, apparemment, pour ce genre de rumeurs, il faut contacter directement une des commissions qui, justement, est chargée d'informer à ce sujet. Moi, je n'ai pas les dernières nouvelles, mais je sais que c'est dans l'air. C'est dans l'air que la Puerta del Sol soit... comment est-ce qu'on dit ? Oui, dégagée. Par contre, je sais qu'il y a des discussions qui sont faites avec la police, etc., pour arriver à un accord, pour voir comment se passe l'expulsion, ou plutôt comment les gens quittent finalement comment les gens vont faire pour quitter la place, et comment les activités qui sont sur la place vont petit à petit s'arrêter. Là, je sais qu'il y a des discussions qui sont en cours avec la police, etc., pour arriver à un accord, pour que ce soit le plus pacifique possible.
Tu veux dire que les gens risquent de finir par partir d'eux-mêmes ?
Non. Non, non. C'est pas du tout ça. Les gens ne veulent absolument pas partir. Hein. Les gens qui sont là, qui sont sur le site, c'est-à-dire c'est pas qu'ils veulent absolument pas partir, mais c'est que le mouvement, il va pas s'arrêter là, quoi. Ils veulent continuer à travailler. Maintenant, je sais pas exactement comment cette décision va être prise. Maintenant, je pense... Par rapport à ce que tu disais, par exemple, que c'est un mouvement qui a voulu jouer sur les élections, je pense pas du tout. Je pense qu'il y a un mécontentement général qui a commencé, qui s'est manifesté surtout donc le dimanche 15. Bon, après ça, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. Et puis donc tout au long de la semaine, les gens ont décidé de rester dormir là et de commencer à s'organiser. Et à partir de mercredi, les choses ont vraiment pris une ampleur incroyable. Ça s'est répandu aussi un peu dans toute l'Espagne. Ben, je pense que ce qu'ils se sont dit aussi un peu, c'est que, bon, il y a les élections, ils vont pas nous faire de guerre pire comme ça en moins de deux. Parce qu'il faut quand même dire que le séjour, entre guillemets, à Sol a été plusieurs fois interdit formellement par la commission électorale de Madrid et je pense aussi à un niveau plus général, donc au niveau de l'État. Ça a été interdit dans toute l'Espagne. De faire ça parce qu'il disait que ça allait influencer le vote et que ça respectait pas les journées de réflexion, etc. Mais bon, ça a été. Les gens sont quand même restés, malgré ça, parce qu'ils se sont dit que voilà, qu'il fallait quand même. Il fallait rester là, maintenant que le mouvement était assez grand. Donc ils sont restés là. Et je pense que maintenant, vraiment, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On ne sait pas si on va pouvoir rester là encore longtemps, si. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens vont continuer à travailler, ça ne va pas s'arrêter demain.
Dimanche, on a voté qu'on restait une semaine de plus et que dimanche prochain, on reporterait la question de ce qu'on faisait sur le camp. Mais bon, ça c'est dire que disons qu'on a un peu peur que ça se dégonfle comme ça s'est gonflé, quoi. C'est un peu le risque.
Ouais.
Même si on a le sentiment que les liens qui sont créés entre les gens, que l'implication personnelle est tellement forte que c'est assez peu probable que ça arrive, il y a quand même ces espèces de risques que ça se dégonfle exactement comme ça a disparu, exactement comme ça a apparu, quoi. Mais comme tu peux le voir, moi je suis assez ému quoi, par ce que je suis en train de vivre, quoi.
Y a todos los zapatistas, y el que no crea que...